m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, Julien, avec courtoisie, mais...
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, en effet. Vous êtes bien sûr Radio Courtoisie, il est 17h30. Bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat chaque jour en direct de 17h30 à 19h30 en partenariat avec les médias Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et le magazine L'Incorrect. Alors, au programme de cette émission, deux invités, deux jeunes femmes, comme ça on ne reprochera pas d'être misogyne. Nous recevons tout d'abord Marguerite Stern qui publie Les Rives Contraires aux éditions Magnus, un récit autobiographique qui nous embarque chez les Femmes à la jungle de Calais en passant par la prison de Tunis et la Crimée. Un récit aussi brûlant que passionnant, vous allez voir. Et à 18h30, nous recevrons la romancière, elle a bon courage Vatrigan pour prononcer, Nanoucha von Morkerkenland. Qui après Le Cœur Content, publié chez Gallimard en 2018 et Amour Mineur chez Metropolis en 2022, revient aujourd'hui avec son nouveau roman, Honoré, publié au Cherche Midi, l'histoire d'un éleveur bovin des Causses qui s'interroge sur le devenir de ses terres et la paysannerie française. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par courriel ou par téléphone. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Marguerite Stern, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous publiez donc Les Rives Contraires aux éditions Magnus. C'est en quelque sorte le livre de votre vie, de mille vies d'ailleurs, parce que malgré votre jeune âge, vous avez déjà une vie de roman, une vie de colère, d'exaltation, de danger, de blessure. Donc c'est un livre qui, comme je l'écrivais il y a quelque temps, vous retourne le cœur et la tête et dans lequel, après avoir dévoilé votre corps chez les Femmes pour une cause, vous dévoilez ici votre âme pour une quête. Une quête violente, douloureuse, mais aussi brûlante et lumineuse, qui rappelle que chercher la vérité se paye au prix fort. Mais avant d'aller plus loin, vous savez, chère Marguerite, que nous avons une tradition dans Restons Courtois, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Marguerite Stern, quel est l'argument woke le plus débile sur la transidentité ?
Le plus courant, le plus commun, une femme trans est une femme.
Vous êtes plutôt François Hollande ou Emmanuel Macron ?
Eh bien, je préfère François Hollande parce qu'au moins c'était plus clair.
S'il ne fallait garder qu'un plat de la gastronomie française, ce serait ?
La truffade, je viens d'Auvergne.
La chanson que vous connaissez par cœur, mais vous ne la voirez jamais.
Wannabe des Spice Girls.
Si vous étiez un personnage de roman.
Non, ça je sais. J'ai un personnage de roman préféré, mais je suis loin d'être elle, c'est Gervaise dans l'Assommoir de Zola.
Raphaël Arnaud en un mot.
Violent.
Sandrine Rousseau en deux mots.
Idiote utile.
Jean-Luc Mélenchon en trois.
Fou, sanguinaire, violent.
Votre maison brûle. Vous ne devez emporter qu'une seule chose. C'est quoi ?
J'ai chez moi une enveloppe en papier craft dans laquelle il y a des photos d'enfance, la photo de mariage de mes grands-parents et deux lettres d'amour. J'en viendrai cette enveloppe.
Votre mot préféré ?
J'ai une passion pour les adverbes. Aléatoirement, j'adore. Sériellement, j'adore. Voilà.
Le son ou le bruit que vous détestez ?
Le bruit du métro parisien.
La France quitte l'euro et revient à l'écu. Quel visage pour l'incarner ?
Oui, Brigitte Bardot.
Dernière question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise juste après votre mort ? C'est gay comme question.
Tu as fait de ton mieux ?
Merci Marguerite. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va davantage plongé dans votre livre passionnant, chers auditeurs. Donc, je vous rappelle Les Rives Contraires aux éditions Magnus, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies et évidemment sur les internets. Alors, première question évidente, simple, qu'on pose à tout le monde, néanmoins importante. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Premièrement, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, comment est-ce que tu es passé de gauche à droite, et qu'à chaque fois, la réponse, c'était, mais tu veux la réponse courte ou la version longue, en fait. Enfin, c'est tellement difficile et long à expliquer que je crois que j'avais besoin de à la fois de me rendre plus lisible aux autres et peut-être aussi à moi-même. Et puis, j'avais besoin, envie d'écrire tout simplement aussi. Et comme j'ai peu d'imagination, en fait, je crois que la prochaine fois que j'écris un livre, j'ai plutôt envie d'écrire un roman. Et que là, cette fois-ci, j'avais envie d'écrire un récit qui aurait pu être un roman. Mais comme j'ai peu d'imagination, peut-être que l'histoire de ma vie, c'était le plus simple. Et puis comme il y a beaucoup de choses à raconter.
Ah, il y a beaucoup de choses, beaucoup voilà. De scénarios, beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages que l'on croise. Alors, on va commencer par le début, si vous le voulez bien. Racontez-nous un peu votre enfance qui ne vous prédisposait pas, à quelques années plus tard, à embrasser le militantisme, et pas n'importe lequel, celui des FMN pour commencer.
Ben, ça dépend, oui et non, parce qu'une enfant qui s'ennuie, c'est une enfant qui peut après surprendre. Ben oui, c'est-à-dire que... et je crois que c'est un truc dont on parle de plus en plus... les pédopsychiatres, le fait que pour les enfants, c'est important de laisser une place à l'ennui parce que ça permet de développer l'imagination. Et alors moi, durant mon enfance, je me suis énormément ennuyée. Et donc, ça a fait que justement, j'ai développé tout un monde intérieur qui s'est développé aussi beaucoup grâce à des groupes de musique... Des chanteurs, des chanteuses,
une certaine littérature,
les Spice Girls aussi. Moi, c'était une enfance vraiment entre les Spice Girls, Fun Radio et Maupassant, J.K. Rowling et Amélie Nothomb. Et donc, tout ça a fait que ça a commencé à peupler un imaginaire intérieur peut-être différent de celui des autres enfants à l'école. Et voilà, j'étais cet enfant-là, un peu ailleurs.
Et donc, vous n'étiez pas à Paris, vous étiez en Auvergne. Et donc, vous quittez l'Auvergne pour Paris, comme beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes après le collège et le lycée. Et donc, vous arrivez comme étudiante en art plastique.
Oui.
Alors, l'art plastique, c'est toujours quelque chose qui vous intéressait, la peinture, la sculpture, les dessins.
Ça m'a toujours animée. Quand j'étais, et ça, pour le coup, j'en parle peu dans le livre, mais c'est vrai que quand j'étais adolescente, j'ai aussi fait beaucoup de photographie et beaucoup de peinture. Moi, je passais mes samedis et mes dimanches absorbés dans mes tableaux, dans un état quasi méditatif. Voilà. Et puis, j'étudiais l'art plastique aussi, les arts plastiques au lycée. Et comme je m'ennuyais à la pause déjeuner, parce que j'allais jamais manger avec mes camarades, j'étais assez isolée. Moi, j'ai eu le temps de lire tout le rayon art plastique du CDI du lycée. Donc, quand je suis arrivée en fac d'art plastique à Paris 8, où se pratique un nivellement par le bas, peut-être des plus dramatiques de tout ce qui se fait dans les universités françaises, j'étais extrêmement frustrée, parce qu'en fait, moi, tout ce dont on me parlait, je savais, enfin, c'était loin derrière moi, quoi. J'avais déjà largement... dépasser le truc. Donc ouais, j'arrive à Paris 8, puis je découvre un monde aussi. C'est-à-dire que moi, je viens d'Auvergne, j'habitais dans un village. Voilà, et donc là, je vais à la fac, y a des femmes en hijab, je ne comprends pas trop. J'habite pas loin de Barbès, en fait, à une rue du boulevard Barbès. Donc sur mon lieu de résidence aussi, je découvre une certaine ambiance. Et pourtant, je développe quand même un certain amour pour Paris, parce qu'évidemment, je ne vois pas que ces quartiers-là. Je parcours aussi Paris du nord au sud, de l'est à l'ouest, à pied. Et pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi quelque part.
Et vous découvrez, vous l'écrivez, le harcèlement quotidien des femmes dans la rue et dans le métro. Alors quand on habite à côté de Barbès, évidemment que c'est un harcèlement qui est bien plus intense et nombreux que ceux qui habitent du côté des Invalides, quoique ça commence à se propager un peu partout. Mais il n'y a pas pourtant une prise de conscience immédiate, si je puis dire.
Oui et non. En fait, si. Il y a quand même une prise de conscience, parce que très rapidement, je commence à répondre à ces hommes dans la rue. Et je regrette d'être la seule femme à faire ça, puisque dans mon entourage, je n'en vois aucune autre le faire. Et à l'époque, je le raconte très brièvement dans le livre, en fait, à l'époque, c'est l'époque où Éric Zemmour est encore dans On n'est pas couché. Et moi, tous les samedis soirs, je regarde Éric Zemmour. Et en fait, je kiffe, parce que c'est le premier qui met des mots très simples sur ce que je vis. Et donc, de façon un peu ironique, l'auteur du Premier Sexe, qui est un livre quand même un peu misogyne,
Un tout petit peu.
Oui, mais paradoxalement, c'est quand même l'auteur du premier sexe qui m'amène à quand même poser des mots, enfin me faire me rendre compte, quoi, prendre conscience de ce que je vis, mais en fait, finalement, rapidement, avec un petit copain qui est très. Qui lui vient d'univers un peu, voilà, les bobos de gauche parisiens, tout ça, en fait, je comprends rapidement que ça se fait pas de. Voilà.
D'écouter Éric Zemmour.
Ne serait-ce que
de penser ce que vous pensez.
De dire qu'on est d'accord avec lui sur un seul point. Et donc, en fait, je refoule tout ça.
Mais vous dites quand même que c'est grâce à lui que vous êtes devenue féministe. Il va être content.
Mais les grands malentendus à l'origine de beaucoup de vos questions.
Mais quelque part, il y a un peu de ça. C'est un peu antithétique, mais il y a un peu de ça.
Et donc, lien féminisme-fémen. Ouais. Comment vous êtes retrouvée? Comment vous avez découvert les fémens? Et comment vous en êtes devenue vous-même une, et ensuite devenue une chef, quoi.
Non, mais j'étais pas une chef. La chef, c'était Ina Shevchenko, qui donc était ukrainienne. Femen, c'est un mouvement qui est né en Ukraine, donc en 2008, en 2010, elles ont commencé à faire des actions seins nus, et Femen s'est exporté en France en 2012, donc avec Ina Shevchenko, qui s'est réfugiée tout simplement en France, après avoir coupé une croix de 9 mètres de haut à Kiev, en soutien aux Pussy Riot à l'époque. Et donc, à l'époque, Ina, c'est la chef. Et à l'époque, la chef, elle a son numéro de téléphone sur Facebook. Ouais. Un jour, j'envoie un texto parce que j'avais vu ces filles débarquer sur mes écrans télé et aussi sur Facebook. Et en fait, je me sentais extrêmement proche de la forme d'expression. Je connaissais pas encore toutes les idées. J'avais aucune culture militante ou politique. J'ai pas baigné là-dedans. C'était un univers que je ne connaissais pas. Mais je me suis sentie proche de cette forme d'expression d'aller créer dans la rue, en fait, tout simplement. J'avais besoin d'aller créer dans la rue et plus toute seule, en fait, avec d'autres femmes. Donc je l'ai rejoint très simplement. J'envoie un texto et puis Ina me dit viens ce soir. Et donc le soir même, je vais au Lavoir Moderne Parisien, qui est un vieux théâtre de la Goutte d'Or du 18e arrondissement de Paris. Et là, j'ai l'impression que ma vie va enfin commencer.
Alors avant de rentrer dans cette nouvelle vie, qu'est-ce qui vous dit vous avez compris ou vous avez eu besoin d'exprimer quelque chose? C'est une colère, c'est une exaspération, c'est un mal-être? Comment vous le définissiez à l'époque?
Franchement, par un seul mot, colère. Et je trouve que c'est le plus beau des mots.
En colère contre qui ou contre quoi?
En colère contre... Je théorisais pas beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que moi, je me disais pas « alors, c'est à cause de l'immigration de masse, de l'islam, etc. » Je savais juste qu'il y avait des hommes dans la rue. Mmh. J'étais capable quand même de savoir a priori en termes de... comment est-ce qu'on va dire ça? En termes de... Je faisais peut-être un peu de délit de faciès à l'avance... Mmh. Qui se révélait toujours quand même correct. Donc bon, voilà. Et j'étais en colère contre ces hommes, en fait. J'étais en colère contre ces hommes. Et moi, je trouve que la colère, c'est superbe. Et c'est l'époque aussi où je me suis rendu compte que de la colère, j'aurais pu en ressentir davantage avant. Et ça développe en fait une nouvelle capacité en moi. C'est une nouvelle aptitude, cette aptitude à la colère. Que je trouve souvent très salvatrice. Je trouve que c'est sain d'être en colère. Je trouve que ça prémunit.
C'est pas d'exprimer sa colère ou d'être en colère, parce que c'est pas la même chose.
Mais il faut faire les deux. C'est important d'être en colère aussi, et puis ensuite de trouver une façon de l'expulser. Mais c'est important, je trouve, de s'autoriser à être en colère, parce que sinon ça se mue en haine. Mal placé, en ressentiment, oui, souvent mal placé, ou parfois qu'on retourne contre soi. Et voilà, moi je trouve que c'est le plus bel des émotions.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes avec Marguerite Stern. Donc, Marguerite Stern débarque de son Auvergne à Paris, est harcelée par des Victor Hugo venus d'Israël, prend conscience du féminisme grâce à Éric Zemmour et atterrit chez les Femmes. Merci Zemmour. Donc,
quel sens. Du résumé, vraiment.
Bon résumé. Qu'est-ce qu'il aurait créé comme vocation, ce Zemmour, quand même? Alors, racontez-nous un peu les fémens, parce que dans l'imaginaire, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a entendu, elles sont manipulées, sont des prostituées, elles sont payées par George Soros. Ouais. Alors, il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de rumeurs qui courent. Alors, comment, c'est quoi devenir militante fémène C'est vous vivez en coloc entre filles, vous avez un seul endroit, vous êtes tout le temps à 24 entre vous, il y a quelqu'un qui vous donne des ordres, qui pilote, c'est organisé, c'est anarchique, comment ça marche?
Bon, moi je peux rien dire de ce qui s'est de Femen en Ukraine, mais en tous les cas en France, moi j'avais accès aux comptes en banque, il n'y a pas d'histoire de George Soros ou je sais pas quoi, enfin moi j'ai vu les comptes en banque, on tournait avec 10 000 euros par an, ce qui est quand même très faible quoi. Donc et au quotidien, comment ça se passe? Vous m'avez demandé tout à l'heure si vous étiez une héroïne de roman, de quel roman, vous seriez qui? Ben en fait, c'était un peu ça, quoi. On était un peu des héroïnes de roman sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que il y avait un côté très, il y avait une économie de moyens. On vivait en squat. Alors, notre premier squat, c'était le Lavoir moderne parisien, qui est un théâtre de la Goutte d'Or, qui est un des lieux dans lesquels se déroulent certaines scènes de l'Assommoir de Zola, où les lavandières lavaient le linge des gens jadis. Donc c'est un lieu comme ça chargé d'histoire, en fait. Pour nous, ça a été vraiment un personnage, c'était un personnage du groupe, le Lavoir moderne parisien. Puis quand on a eu un deuxième squat à Clichy, qui était un bâtiment de 3000 mètres carrés, c'était encore un autre personnage. Et donc on était, on avait ce qu'on appelait le noyau dur, c'est-à-dire 6-7 filles. On habitait comme ça, ensemble en squat. C'était toujours des bâtiments avec une plomberie, une électricité approximative.
C'était pas vraiment aux normes, quoi.
Pas super aux normes. Nous-mêmes, pas hyper doués en la matière. Mais bon, il a quand même fallu...
Problème des filles.
Non, mais franchement...
Au bout d'un moment...
il a fallu quand même apprendre à changer des fusibles et faire des petits travaux, des trucs comme ça. Mais bon, je vous laisse imaginer. Vraiment, c'était pas... Voilà. Et c'est aussi une vie qui est complètement occupée par des discussions idéologiques permanentes. Des discussions idéologiques et aussi des plans. C'est-à-dire qu'on était en permanence en train d'aller repérer des lieux dans Paris, en train de...
Mais c'était quoi la ligne? Vous battiez contre qui? Contre quoi? Est-ce qu'il y avait une ligne qui était définie ou c'était un peu foutraque?
Non, il y avait une ligne extrêmement claire et d'ailleurs on a publié un manifeste Femen qui est un tout petit ouvrage très court. Le but c'est l'abolition totale du patriarcat, on pourrait revenir sur ce mot mais voilà. Mmh. Et ça tenait en trois piliers avec lesquels je reste quand même plus ou moins d'accord. Donc on se bat contre les dictatures, c'est-à-dire pour aussi la liberté d'expression, enfin voilà, les systèmes dictatoriaux, on peut le voir au sens large, contre l'industrie du sexe, c'est-à-dire pornographie, prostitution, GPA, et là-dessus, je reste toujours particulièrement convaincue. Et puis, il y avait le côté aussi institution religieuse. Et c'est vrai que ça, pour le coup, on les mettait toutes à la même hauteur. J'ai changé d'avis là-dessus.
On en reviendra, bien sûr.
J'ai toujours été très critique de l'islam, mais bon.
Rémi Carlu a une question.
Oui, vous nous expliquiez que, en gros, c'était plutôt des hommes issus de l'immigration qui vous avaient embêté dans la rue à Paris et qui avaient votre conscience féministe d'une certaine manière. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouviez dire au sein des Femen, ou est-ce que c'était considéré comme une discrimination et donc il fallait absolument pas en parler, on ne pouvait pas relever ce phénomène?
Il est possible qu'on l'ait évoqué à l'époque, mais c'était pas...
C'était les hommes en général
Il y avait quand même pas... Dans Femen, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ambiance misandre comme ça. Femen n'était pas du tout anti-homme comme le féminisme actuel l'est. Enfin, nous, nos meilleurs copains, enfin, ceux dont on se sentait le plus proche idéologiquement en France, c'était les gens de Charlie Hebdo, donc à 90% des hommes. Il n'y avait pas du tout cette ambiance anti-homme, du tout. La question... Je me rappelle, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit, que je ne devrais peut-être pas dire, mais voilà.
Chic. Crochez-vous, chers auditeurs.
Non, mais quand les filles de Femen ukrainiennes, Oksana, Yana, Anna et Sacha ont dû à un moment vraiment fuir l'Ukraine parce qu'elles étaient persécutées gravement, et que donc elles sont arrivées au Lavoir moderne parisien et qu'elles ont commencé à habiter avec nous et à découvrir la Goutte d'Or, elles tenaient des propos qu'à l'époque, nous, on qualifiait de racistes. C'est-à-dire qu'on était outrés et qu'elles se permettent de dire que, ici, c'était quand même... c'était plus l'Afrique que la France et qu'elles ne se sentaient pas très à l'aise. Donc, ça répond certainement à votre question. Ouais.
Alors, racontez-nous votre première action, parce que donc, le principe quand même des Femmes, c'est de dévoiler sa poitrine, et vous vous dites « je suis hyper pudique ». Alors, ouais. Comment ça se passe? Comment on s'extrait de son corps, et c'est quoi votre première action d'ailleurs?
Bah, oh non, ma première action était très nulle. C'était une action chez Ikea.
Oui, ça c'est nul, Ikea.
Oui, mais alors la cause était juste et noble, et vous serez d'accord avec ça, parce que c'est en fait la marque avait décidé de retirer toutes ces femmes du catalogue destiné à l'Arabie Saoudite, parce qu'elles étaient trop proches des hommes sur les photos, les femmes, et donc vous comprenez, ça posait des questions. Voilà. C'était plus simple de les retirer complètement plutôt que de leur mettre un hijab. Donc en même temps, cette action était nulle. Vous pouvez taper Femen Ikea sur Google, regarder visuellement, c'était moche, c'était raté. Enfin, voilà.
Et donc c'était quoi alors? Mais c'était quoi l'action? Ça consistait en quoi?
C'était une action classique. Avec des slogans, je me rappelle plus exactement. Enfin, on est allé dans un Ikea et voilà. Et on prévient la presse à l'avant comme à chaque fois. Mmh. Et donc il y a des images et voilà. Pas celle qui m'a le plus marquée, mais en tous les cas, sur la question de la pudeur, j'étais très pudique, je reste très pudique, et pourtant, je l'ai quand même fait, et je l'ai fait parce que ça me semblait juste et approprié, et idéologiquement, je trouvais ça justifié, en fait. Et à aucun moment, dans une action féminine, je me suis sentie nue. Parce qu'on portait toujours sur nous des étendards, des slogans quand même peints sur la poitrine, et qu'on était là pour montrer ça, et surtout parce que dans nos positions, on n'était pas dans des positions lascives, il n'y avait jamais de déhanchés, c'était très important pour nous. On faisait des entraînements tous les samedis soirs.
Alors oui, en effet, il y a un truc, c'est très encadré, il y a un côté très happening, comme on dit, préparé, donc des entraînements, pas des chorégraphies, mais il y a des postures que vous prenez et d'autres que vous ne prenez pas. Comment ça se passe, tout cet entraînement-là? Et puis, on parlera ensuite des liens avec la presse, parce que ça, c'est aussi intéressant. C'est un truc de gauche.
Alors, ces entraînements-là, c'est tous les samedis, au Lavoir Moderne Parisien, on reçoit toutes les filles. Donc, il y avait ce petit noyau de 6-7 filles. Et puis, autour de ça, gravitait, je sais pas... 15-20 activistes, et donc on les reçoit et on fait des entraînements, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à prendre des poses qui soient agressives, voilà, à résister aux arrestations policières, toujours de façon pacifique, c'était quand même un grand mot d'ordre, hein, et on s'est pris parfois des coups, pas de la part de la police, mais on s'est pris parfois des coups, ne jamais retourner un coup, et puis aussi, tout simplement, beaucoup de sport, du sport ensemble, parce que c'est fédérateur et parce que ça crée des liens. Quand on fait ensemble, peu importe ce qu'on fait ensemble, c'est pas pareil que quand juste on discute. Et donc ça fait qu'ensuite, dans les actions, vous avez des liens particuliers entre les activistes.
D'accord. Alors, il y a un chapitre qui est consacré à une action en Crimée. Alors quand on le lit à la fin, on n'a plus de souffle. Il y a vraiment une grande qualité d'écriture dans votre livre. Et donc là, c'est vraiment une scène d'action où on épouse votre point de vue. C'est comme dans des jeux de subjectifs. Bah là, on est dedans et on vous suit, et à la fin, il faut reprendre un peu son souffle. Racontez-nous cette action. On est au moment de l'annexion en Crimée, c'est quoi, 2014?
Ouais.
Alors, pourquoi vous allez en Crimée? Alors, il y a évidemment le lien Ukraine avec la patronne des Femmes. Il y a le... Voilà, mais pourquoi se cibler ce lieu-là particulièrement aujourd'hui, et comment ça se déroule, et pourquoi vous, d'ailleurs?
Pourquoi la Crimée? Parce que, figure dans les trois piliers de Femen, la lutte contre les dictatures, et on considère qu'en 2014, en fait, il n'y a plus à annexer des territoires comme ça, et que c'est un processus antidémocratique, et puis en plus, les filles de Femen, venant d'Ukraine, en ont quand même pas mal contre Poutine, et on baigne quand même dans cette culture-là. Pourquoi moi, enfin, pourquoi Sarah et moi? En fait, c'était une question. Importante pour nous à l'époque, c'est comment est-ce qu'on fait le choix des activistes qui vont mener les actions. Alors, on considère que c'était pas du tout démocratique, et c'était pas du tout horizontal, et c'était revendiqué que ce soit comme ça.
Vous nous rassurez.
Et je pense que dans les petits groupes,
oui, il y a des défauts.
Dans les petits groupes, c'est toujours mieux que ça marche comme ça. C'est-à-dire que ça fonctionne un peu au présentiel. C'est-à-dire que plus t'es là, plus t'es investi, en fait, plus ta parole, est importante. Et puis, c'est important qu'il y ait une chef pour trancher à la fin, parce que sinon, les débats durent 15 heures. Et en fait, au bout d'un moment, l'action ne la fait pas. Donc, s'il y avait des accords à la fin, c'était Ina qui tranchait. C'était très bien comme ça. Donc, pourquoi Sarah et moi ? Parce qu'on était toutes les deux plus ou moins entraînées. Parce que moi, j'avais déjà fait un mois de prison en Tunisie. Donc, j'avais pas peur de refaire un ou deux mois de prison. C'était pas très grave. Et puis aussi parce qu'entre Sarah et moi, il y avait une amitié, une alchimie. Et quand on se rend sur un territoire qui est quasiment un territoire en guerre, c'est important quand même qu'il y ait des liens entre les deux personnes. Voilà. Et donc cette action, elle est particulière parce que c'est la première et la seule fois de ma vie où j'ai eu l'impression d'être dans un territoire en guerre. Alors on peut penser que j'exagère un peu quand je m'exprime comme ça, mais je vous assure que vous ressentez un certain frisson qui parcourt votre échine quand vous sortez de l'aéroport de Simferopol et que face à vous, sur le parking comme ça, avec une brume en plus épaisse qui rend tout absolument dramatique, vous voyez des hommes tous en uniformes différents, vous ne savez pas qui sont les Ukrainiens, qui sont les Russes, vous ne savez pas si ce sont des milices voilà, ou bien des officiels. Mmh. Au milieu de tout ça, il y a une commissaire sexy en tailleur bleu avec un talkie-walkie qui traverse la scène. Vous dites, c'est un film. Et donc le moment de l'action est particulier parce qu'on se jette au milieu d'une foule de manifestants pro-russes et que ça se passe mal et que moi, c'est la première fois de ma vie que pendant une action féminine, m'effleure l'idée que peut-être mon intégrité physique pourrait être abîmée. Et donc rapidement, en fait, quatre policiers ukrainiens m'attrapent chacun par les poignets et les chevilles et me font traverser la foule comme ça, une foule qui essaye de me lyncher. Et je suis là comme ça, le visage face au ciel, dans un état quasi méditatif au bout d'un moment, à me dire en fait, je ne sais pas qui sont ces hommes. Après, j'apprends que ce sont des policiers ukrainiens, mais sur le moment, je ne sais pas entre les mains de qui je suis. Et dans un état quasi méditatif, se rejoue dans ma tête toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Inna, avec Pauline, avec Sarah de toi, est-ce que tu es prête à aller jusqu'à où ? À perdre un œil ? Non. Un bras ? Non. Une jambe ? Non. Combien de temps de prison ? 2 mois ? Ok. 6 mois ? Oui. 1 an ? Non. Et en fait, c'est le temps. Femen m'a beaucoup appris sur le rapport au temps. Notamment parce que j'ai passé un mois en prison et quand vous passez un mois en prison, bon, vous développez un rapport au temps différent, mais le temps pendant les actions aussi est particulier parce que à la fois, parfois, vous avez l'impression que ça dure 3 secondes et oh mon Dieu, c'est déjà fini. Et à d'autres moments de l'action, vous avez l'impression que le temps s'étire comme ça et que ça dure une éternité et que vous n'allez jamais en sortir. Et en fait, au bout du bout, quand vous regardez les images de presse, vous vous rendez compte que ça ne correspond absolument pas à ce qu'il y a dans vos souvenirs dans tous les cas. Et vous vous rendez compte aussi d'à quel point de ce que le cerveau humain peut faire en termes de cocktail chimique qui vous fait parfois oublier des moments ou déformer la réalité. Enfin, c'est des expériences quand même assez...
Alors finalement, vous en sortez indemne et vous revenez en France. Alors là, depuis le début, on raconte un peu tout votre parcours avec un ton plutôt léger, parce que c'est en effet, c'est une vie de roman. On n'a pas, vous avez évoqué, mais votre passage en prison de quelques semaines, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais quand je disais que c'était un livre aussi qui vous retournait, c'est parce que c'est un livre qui est dur, qui est douloureux, parce que votre vie est faite de blessures et dès le départ. Et c'est le long de tout votre livre, il y a un acteur principal, c'est la mort,
oui.
Qui accompagne du début à la fin. Quel rôle joue la mort dans votre vie ? Quel rôle a joué la mort dans votre évolution et dans votre parcours ?
Vous m'avez posé cette question déjà sur le plateau de CNews avec Mathieu Bock-Côté. Vous savez que j'ai beaucoup repensé depuis.
Et j'étais déçu de la réponse.
Vous étiez déçu de la réponse ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est très, très frappant dans votre livre, vraiment.
Et oui, mais moi, je m'en suis rendu compte après. Et c'est vrai que je réalise de plus en plus à quel point. Alors, quel rôle joue la mort ? Déjà, moi, j'ai failli mourir à la naissance. Et quand on a une image de soi où on sait que les premiers instants de sa vie, c'était pas de la vie, c'était de la survie. Enfin, il a fallu vous réanimer pour que votre cœur reparte. Moi, je pense quand même que ça conditionne une existence, d'une certaine façon. Peut-être aussi parce que, je sais pas, ça reste inscrit dans l'inconscient. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est gravé dans ma chair, ça. Je sais pas trop comment l'expliquer. Je parle aussi de la mort parce que moi, des morts, j'en ai vu beaucoup. Des circonstances de la vie ont fait que moi j'étais confrontée physiquement, matériellement à des cadavres. Et donc, quand vous savez à quoi ça ressemble un cadavre, je sais pas comment dire, moi ça m'a toujours impressionnée et toujours. Voilà. Et désormais, quand je perds un proche, comme par exemple je raconte la perte des dessinateurs de Charlie Hebdo qui nous a beaucoup marqué avec Les Filles de Femen. Qui était une mort, c'était des morts douloureuses aussi parce que c'était des compagnons de lutte. Moi, à chaque fois, j'ai quand même aussi cette image de cadavre. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, pour moi, la mort, c'est très concret, quoi. Et puis, en fait, vous savez, je me suis rendu compte aussi que dans le livre, c'est un passage très bref, mais je parle de la différence entre la gauche et la droite. Et pour moi, il y a quelques différences fondamentales, enfin d'un point de vue un peu, je sais pas comment dire, un peu genre plutôt philosophique, enfin voilà. En fait, je trouve que la droite est le camp de la vie, de la pulsion de vie, et que la gauche est le camp de la pulsion de mort. J'espère qu'on aura le temps en fin d'émission de parler de.
Évidemment, Quentin. On en parlera juste en deuxième partie, évidemment.
Voilà, et donc voilà, je trouve que la droite. Veut conserver, veut préserver, veut tourner vers la beauté et vers la vie. Et je trouve que la gauche prône, en fait, par exemple, à travers l'idéologie transgenre, le fait de détruire complètement les corps. Enfin, et puis, même, la gauche théorise la déconstruction. En fait, la déconstruction, c'est juste un euphémisme pour dire la destruction. Et donc, détruire, c'est mourir. Enfin, voilà. Et puis, je trouve qu'à travers l'idéologie immigrationniste aussi, je veux dire, quand on pousse l'immigration jusqu'au bout, ça donne immigration de masse, et puis après, ça donne invasion migratoire, et puis après, ça donne qu'il y a un peuple qui meurt. Donc, je trouve comme ça que la gauche est très envahie par ce truc de pulsion de mort, comme ça, d'un peuple qui, à l'échelle à la fois collective et individuelle, se déteste jusqu'à vouloir presque s'effacer. Et bon, on va terminer sur une note positive, vous l'attendez certainement, mais les morts dont je parle dans mon livre ne sont pas tous tristes. Il y a aussi les morts sublimes que sont certains auteurs français qui m'ont accompagnée. Et vous savez, pendant cette campagne de promo autour de mon livre, j'ai l'impression à chaque fois d'en parler pas très bien et de juste dire, alors, il faut lire Émile Zola et Jean-Jacques Rousseau parce que ce sont de grands auteurs de la littérature française, tout ça. Et en fait, j'espère que les gens voient pas ça comme ça parce que moi, j'ai toujours... Enfin, je veux dire... J'espère que je ne parais pas prétentieuse quand je parle de ça, parce que c'est juste que j'aimerais dire aux gens que c'est important d'avoir ce type de mort-là dans sa vie, d'avoir les grands génies français dans sa vie, parce que ce sont des gens qui nous aident à vivre, justement. Émile Zola et Jean-Jacques Rousseau, pour moi particulièrement, m'ont aidé à traverser des moments de ma vie compliqués. Pourquoi ? Parce que je trouve que le propre d'un grand artiste, d'un grand auteur, c'est qu'il peut parvenir à transformer la perception que vous avez du monde et donc à la sublimer, à vous faire voir le monde différemment à travers ses propres yeux. Et Zola, par exemple, raconte souvent des choses très sombres dans ses romans. Mais en fait, il le dit tellement bien que quand vous, à nouveau, dans votre vie, vous viviez des trucs sombres, vous essayez de les voir à travers les yeux de Zola et tout d'un coup, la misère est un peu moins dégueulasse. Et donc ces morts-là m'aident énormément.
Il est 18h03, chers auditeurs, le temps d'un petit message très important, puisqu'il est question de la survie de la radio, et on se retrouve.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes bien sûr Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Nous avons la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir Marguerite Stern pour son livre Les rives contraires. Mais avant de nous replonger dans ces rives contraires, mais qui va se terminer bien, en tout cas qui s'est bien terminée et qui va être encore mieux, en tout cas on l'espère pour Marguerite Stern dans les années qui vont suivre, bah c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu qui va nous parler de la gauche. La gauche coupable.
Eh oui, comment ne pas penser, cher Arthur, à Quentin. Quentin Dérenque, on peine à se remettre du lynchage abominable dont il a été victime par les Antifa et l'on cherche encore à identifier toute la chaîne de responsabilité qui a pu conduire à pareil drame. On le savait, on l'avait redécouvert avec l'assassinat de Charlie Kirk, c'était arrivé dans d'autres pays européens. La chose est désormais indéniable chez nous. La gauche est d'une dangerosité absolue. Certains, par facilité rhétorique, ont dit des Antifa qu'ils étaient les vrais fascistes. On comprend bien sûr leur envie de retourner l'insulte suprême de la gauche contre elle-même, et il y a certes quelques similitudes dans l'organisation en milice pour tenir la rue, dans l'usage de la violence bien sûr, dans cette manie aussi répressible de chanter des slogans italiens en tendant les bras vers le ciel. Mais déjà, Romaric vous ferait remarquer que les fascistes avaient au moins le bon goût d'être élégamment vêtus. Et puis, outre que les idéaux politiques des antifas n'ont rien à voir avec ceux du fascisme, vouloir fasciser les antifascistes revient à valider les catégories de la gauche pour faire de la droite l'éternel repoussoir. Non, ces antifas n'ont pas trahi l'antifascisme, bien au contraire, ils ont été fidèles à son histoire, à ses objectifs et à ses méthodes qui ont fait couler beaucoup plus de sang que le fascisme lui-même d'ailleurs.
Alors qu'est-ce qui vous a frappé dans cette affaire ?
Eh bien, primo, le déshonneur. Les antifas s'y sont mis à 6 ou 7 pour lyncher un jeune homme qui était déjà au sol. Il faut redire combien le procédé est ignoble, s'y mettre à 6 contre 1, mais qui agite ainsi ? Il y a moins de 60 ans avait lieu en France le dernier duel, aujourd'hui, on organise des guet-apens en supériorité numérique pour massacrer un homme au sol, le tout étant bien sûr filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Du code d'honneur aristocratique, nous sommes passés à la loi des racailles, c'est cela aussi le grand remplacement. Deuxième point, l'impuissance. Rappelons que la Jeune Garde a été dissoute en Conseil des ministres en juin 2025. Or, elle a bien sûr continué à vivre comme si rien n'était, tenant même un stand aux universités d'été de LFI. Bref, et ce n'est pas un scoop, dissoudre un mouvement ne permet en aucun cas de mettre hors d'état de nuire ses membres que l'on sait dangereux. Les politiciens devront répondre de ce piteux échec. Troisième point, l'irresponsabilité. Depuis quelques jours, la gauche, dans toutes ses nuances, dans toutes ses couleurs, se livre à des exercices de contorsion intellectuelle absolument dingues pour s'absoudre de toute responsabilité dans le drame. Déni, mensonge, fausse dénonciation, inversion accusatoire, tout y passe, et qu'importe les contradictions ou les absurdités. Ils ont tué un fasciste, paraît-il, mais personne ne s'en enorgueille, quels curieux résistants ils font. Quatrième et dernier point, l'indignité. Faute de pouvoir accorder son discours, la gauche politique et médiatique a tenté de sauver sa peau en salissant la mémoire de Quentin dont le corps n'était pas encore froid. Leur défense était à peu près dans ces termes. Certes, tuer n'est pas très altruiste, mais Quentin n'était vraiment pas un type recommandable. D'ailleurs, c'était un sale nazi. Salir la victime pour absoudre les coupables, c'est comme prétendre qu'une femme s'est faite violer à cause d'une tenue un peu trop aguicheuse. La même rhétorique avait été déployée pour Charlie Kirk. Quand l'extrême droite meurt, c'est encore la faute de l'extrême droite parce qu'elle l'a bien mérité.
Donc vous voulez dire que la gauche, toute la gauche, est coupable ?
Bien sûr, et de multiples manières. Elle est d'abord coupable par association. On savait les gauches plus ou moins proches de la Jeune Garde, mais on découvre ces derniers jours à quel point ces liens étaient profonds. La Jeune Garde n'est pas seulement liée à LFI, elle organisait des formations d'autodéfense pour les Verts et la CGT, elle menait des actions conjointes avec la mairie de Lyon, elle organisait partout des services d'ordre, elle était même un soutien officiel sur l'affiche de la campagne législative de François Hollande en 2022. Bref, toute la gauche s'est accoquinée avec ses voyous. Il y a ensuite, bien sûr, le climat politique. Les propos grandiloquents sur l'imminence d'une menace fasciste chauffent à blanc les militants, arment leurs esprits en attendant d'armer les corps et incitent au passage à l'acte. Si c'est Hitler, il faut effectivement le tuer, et Mélenchon, dont on a compris dernièrement qu'il condamnait uniquement le dernier coup de pied, celui qui a donné la mort, paraît à côté bien pleutre. On connaissait le djihadisme d'atmosphère, il y a aussi l'antifascisme d'atmosphère, ceux qui incriminent du reste, tous les politiciens ayant participé au théâtre antifasciste. Mais la responsabilité de la gauche est encore plus profonde, plus ontologique. Pour la gauche, un homme n'a de dignité que s'il est de gauche. Si vos idées sont mauvaises, vous êtes un ennemi de la communauté humaine et vous en êtes donc exclu. La gauche mène une controverse de Valladolid en permanence, distribuant et ôtant la dignité. Voilà comment s'explique la déshumanisation abjecte de l'adversaire dont ses militants font preuve à la moindre occasion. Et si vous ne faites pas partie de l'humanité, alors vous êtes une menace à anéantir. Il y a donc un continuum très clair, allant de ceux qui refusent de serrer la main d'un jeune député RN au lynchage violent de Quentin, La gauche sépare l'humanité en deux, entre ceux qui méritent de vivre et ceux dont la mort, si on ne peut pas la souhaiter publiquement, sera bien sûr salutaire. Le tout au nom de la société plurielle.
Mais tout ceci ne témoigne-t-il pas d'un rapport différent de la gauche et de la droite à la chose politique et au clivage ?
Voilà une question extrêmement pertinente.
Merci.
Pour la gauche, on le sait, c'est son slogan, tout est politique. Le politique est l'ordre suprême de l'existence qui contient tous les ordres réputés inférieurs, la culture, la gastronomie, la religion, que le politique instrumentalisera d'ailleurs pour mener ses combats. En fait, la gauche n'est pas une opinion politique parmi d'autres, elle est une identité, une foi, qui certifie d'être du bon côté de l'histoire. Pour la gauche, qui n'est qu'une version moderne de l'hérésie pélagienne, le mal n'est pas dans le cœur de chacun, mais dans la société, dans les institutions, dans les mœurs, et c'est la droite qui l'y répand. La droite empêche le progrès d'advenir. D'où un rapport très agressif au clivage politique, la gauche a pour objectif final l'anéantissement de la droite. Sa société utopique, sa fin de l'histoire idéale, c'est ni plus ni moins une société où la droite n'existe pas, où rien n'entravera plus les forces du progrès. De là ces pulsions purificatrices, la gauche ne fait que rendre justice au fond, tous ces crimes ne sont que légitime défense. Pour la droite, en revanche, la politique n'est qu'un ordre parmi de nombreux autres, et elle est loin d'être l'ordre supérieur. Après tout, que peut le politique, que peut la volonté face au tragique de notre condition ? L'homme de droite n'a pas d'immenses prétentions politiques, tout au plus veut-il maintenir un ordre à peu près sain, parce que l'essentiel, il le sait, se joue ailleurs, dans les foyers, dans les églises, dans les cœurs. L'homme de droite sait qu'il doit et va composer avec l'homme de gauche parce que l'homogénéité est un rêve égocentrique de dictateur. Son combat ultime est ailleurs, ce n'est pas la réforme extérieure qu'il vise, mais la conversion ou la restauration intérieure permanente. Cette différence d'appréhension du politique entre gauche et droite, on la mesure aujourd'hui dans le calme inouï et l'extrême dignité de l'entourage de Quentin. Un drame est advenu, on se recueille, on cherche à comprendre et on demande justice. À gauche, au contraire, au lendemain de la mort de Naël, on vociférait, on brûlait, on pillait. La mort du jeune homme n'était qu'un prétexte pour réactiver l'antique guerre civile contre les forces réactionnaires à l'origine du mal de ce monde. La lutte toujours, jusqu'à ce que mort s'en suive.
Merci Rémi Carlu. Marguerite, vous avez vécu en tout cas une partie de votre vie dans un milieu de gauche et même d'ultra-gauche. Est-ce que l'autre camp, les gens de droite, étaient perçus comme Rémi le décrivait, c'est-à-dire non pas un adversaire mais un ennemi ?
Déjà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, bravo. Oui, bien sûr que la droite a été perçue comme des ennemis. Moi, je peux dire que ce climat, j'y ai participé, ce climat de diabolisation, notamment de ce qui était... Enfin, oui, je crois que c'était encore l'URN. Enfin, c'était déjà l'URN à l'époque, mais on a fait de nombreuses actions contre le Front National et le Rassemblement National. Enfin, je ne sais plus, mais peu importe le nom du parti à l'époque, en clairement désignant ces personnes comme des fascistes, des racistes. Voilà, donc oui, c'était le climat, clairement. Après, on n'était pas non plus dans les menaces de mort. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que...
Là, vous avez vu un gap passer, on est passé sur un truc, sur le lynchage et le meurtre de Quentin, on est passé sur autre chose ?
J'ai l'impression quand même que la gauche se radicalise. Après, en fait, moi, à l'époque où j'étais de gauche, j'étais quand même dans un courant universaliste. Voilà, c'était la gauche à la Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, voilà.
C'est une gauche, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et on était quand même nous-mêmes attaqués par les mouvements décoloniaux, les Oria Boutelja, voilà. Et donc en fait, mais il m'est arrivé de participer à des manifestations où j'ai pu voir ces gens, et puis on a pu recevoir aussi des menaces de la part de ces gens. Donc en fait, c'est quand même toujours des gens que j'ai toujours un peu observés, et j'ai l'impression que il y a que c'est des mouvements de plus en plus radicaux, et surtout que l'usage de la violence et de la menace de mort est de plus en plus présent et de plus en plus affirmé, clairement revendiqué. Voilà.
Vous-même, vous êtes menacé par les antifas, et encore plus après l'affaire Transmania, le livre que vous avez sorti avec Dora Mouto, pour dénoncer les enfants cobayes et le transactivisme destructeur. Vous avez eu vous-même affaire aux antifas.
Oui.
Donc, cette violence, vous l'avez vécue aussi en tant que personne visée.
Je ne veux pas me poser en victime et parler de moi.
Non, ce n'est pas être victime, c'est un fait.
Oui, non, non, mais enfin, c'est juste que bon, là, c'est Quentin qui est mort, quoi. Et que moi, je suis encore vivante. Mais c'est juste que. Oui, avec Dora Mouto, avec qui j'ai coécrit ce livre, ça nous a arrivé de faire face à des. Enfin, par exemple, quand on a voulu donner une conférence à Assas, il y avait plusieurs dizaines de manifestants, dont certains étaient de la mouvance Antifa. Et il y avait plusieurs quarts de CRS pour nous protéger. Quand j'ai donné une conférence à l'ICEP, l'école de Marion Maréchal à Lyon, la veille, ils ont essayé de cramer l'école, en fait. Et ils auraient pu réussir si les pompiers n'étaient pas intervenus à temps. Et tout un immeuble avec des familles qui dormaient au-dessus auraient pu partir dans les flammes. En fait, c'est allé jusque-là. Et puis, ça va aussi jusqu'à la publication de textes comme voilà, sur le site Paris Lutte Info qui diffuse tous les appels à manifester en Ile-de-France. Figure encore un communiqué qui n'a toujours pas été retiré. Ça fait plus d'un an que ce truc est là, qui appelle, c'est écrit noir sur blanc, qu'il faut procéder à l'éclatage des têtes en question, je cite. Mmh. Donc, les têtes en question, c'est celles de Dora Mouto et moi. Et puis, je cite à nouveau, il est écrit « Elles désirent notre mort, nous désirons la leur. » Donc, ces gens désirent notre mort. Et donc, en fait, on peut pointer la responsabilité de la gauche et de l'extrême gauche dans l'instauration de ce climat qui fait qu'aujourd'hui, Quentin n'est plus parmi nous, a été assassiné. Et l'autre responsabilité qu'il faut pointer, à mon avis, c'est celle de la justice. Parce que quand on pose plainte quand on porte plainte pour menace de mort, en fait, on n'est pas entendu. Nous, avec Dora, clairement, les magistrats se sont foutus de notre gueule, en fait. Enfin, l'enquête sur cette menace de mort précise-là, elle a été sabotée. En fait, il y a eu de mauvaises transmissions qui ont été faites entre les éléments que la police a trouvés et que la justice a trouvés, avec des erreurs de transmission de numéros de téléphone et de noms, en changeant des lettres dans les noms, des numéros dans les numéros de téléphone, et qui ont abouti au fait que la police ne pouvait pas faire, justement, son travail. Et donc, à ce moment-là, quand même, vous vous dites, bon, je veux pas être complotiste, je veux pas, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un système quand même au niveau judiciaire qui permet que quand il y a des personnes qui sont menacées, on ne prend pas au sérieux. Donc du coup, celles qui menacent se sentent dans une impunité totale, ne sont retenues par aucun lien, par aucun cadre. Le cadre étatique est juste évaporé, absent, enfin voilà. Et donc on en arrive à de telles extrémités.
Donc vous n'êtes pas ni surprise, mais vous pensez qu'en plus il y a au-delà de la responsabilité politique, il y a chez certains juges ou dans une certaine justice une responsabilité du fait qu'ils protègent.
Je ne sais pas s'ils le font sciemment, mais en tous les cas, on peut dire qu'aujourd'hui, la justice ne protège pas les militants de droite, puisque les plaintes sont sans cesse classées sans suite. Dora et moi, on n'est pas les seuls. Et puis là, je vous cite un exemple. En fait, des exemples, il y en a eu plein d'autres, et caractérisés. Voilà. Et puis, je ne suis pas la seule. Et puis, en fait, c'est juste que, vous savez, nous, oui, vous le savez, dans les milieux militants de droite, voilà, enfin, c'est des conversations qu'on a souvent, en fait. Qui va être le premier ? Alice Cordier, Damien Rieu, Vincent Lapierre, Dora et moi, qui ? Et donc, voilà, aujourd'hui, ça tombe sur Quentin. On s'y attendait. On s'attendait à ce qu'un jour, il y ait un mort. Et moi, j'ai même peur qu'il y ait, par une forme de contagion sociale, d'autres morts qui suivent. Parce que ces gens fonctionnent beaucoup par un phénomène de contagion sociale.
Vous ne pensez pas que cet assassinat sauvage et barbare va, pas faire disparaître la mouvance Antifa et l'odeur de sang qui attire tous les révolutionnaires de gauche, mais va mettre peut-être un point d'arrêt ou un stop le temps d'eux? Vous pensez que ça ne va pas
Dans la tête de ces gens
Disons du côté de la justice et des hommes politiques.
J'en sais rien, j'attends de voir.
Vous attendez de voir.
Une forme de complaisance qui puisse peut-être un peu voler en éclats.
J'en sais rien, je suis pas analyste politique, c'est pas mon métier de commenter et tout. J'espère juste vraiment que, je sais pas, des mesures seront prises, que certaines personnes seront placées sous protection, qu'il y aura aussi un classement des Antifa comme organisation terroriste, parce que les mots ont un sens quand même, et que la loi, même si elle n'est pas toujours respectée, évidemment, mais porte quand même un caractère symbolique fort qui influe quand même sur l'imaginaire collectif. Et donc, j'espère qu'il y aura tout ça, mais j'ai peur d'espérer un peu en vain.
Alors, revenons à votre livre, chère Marguerite. On continue votre parcours, et là, on va arriver au moment où ça change. Il y a une rupture. Ça change avec le mouvement, la cause trans. Là, il y a un désaccord. C'est votre moment de bascule. Et là, comme si soudainement, vous ouvrez les yeux sur ce que vous racontiez un peu plus tôt, sur cette pulsion destructrice et de mort de la gauche. C'est cette cause trans qui vous réveille, si on peut parler comme les woke, qui vous éveille.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me prends un peu le mur du réel. Enfin, c'est-à-dire que moi-même, je me mets à prôner des arguments basés sur le réel, la biologie. En fait, je sors un peu de la sphère des idées complètement déconnectées du réel. Et voilà, je retombe dans la matérialité des choses. Et en fait, je pense que ça m'a permis d'avoir une nouvelle hygiène mentale. En fait, je raconte à un moment du livre comment, je pense qu'avant, je réfléchissais beaucoup plus avec mes émotions pour ensuite plaquer des justifications sur ces émotions-là pour les valider. Émotions qui étaient, par exemple, je ne veux pas que les étrangers souffrent, ils sont victimes de racisme ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et puis, tout d'un coup, en fait... je suis face à des gens qui me disent non mais être une femme c'est un sentiment et une femme trans est une femme. Et donc en fait je suis obligée face à des arguments quand même complètement perchés quoi. Je suis obligée de me plonger dans des manuels de biologie et de regarder des conférences de génétique pour monter un argumentaire et leur expliquer qu'une femme est une femme et qu'un homme est un homme. Et en fait, ma pensée devient beaucoup plus rationnelle. Et donc, ça déjà, c'est en fait c'est un terrain qui conditionne le fait qu'à un moment, quand un beau jeune homme vient me parler sur Twitter et me dire « Madame Stern, rejoignez-nous », voilà, c'est un homme, c'est un partisan de reconquête d'Éric Zemmour, voilà. Ça conditionne le fait que... ça, et puis d'autres choses, le fait qu'évidemment, je commence à être victime quand même d'un certain harcèlement de la part de mon propre camp et que ce camp n'est plus trop tellement le mien, ça conditionne le fait que quand ce beau jeune homme vient me parler, ouais, j'écoute et en fait, je change d'avis, quoi.
Alors, ce qui est... j'ai une question justement par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez été, donc vous l'avez dit, harcelé, il y a eu des menaces, et évidemment, toute cette meute qui se met à vos trousses, mais est-ce que c'est par vos convictions que un homme est un homme et qu'une femme est une femme, ou c'est parce qu'il ne vous pardonne pas l'apostasie, c'est-à-dire que dans la gauche comme en islam, l'apostasie, on vous condamne à mort.
Non, c'est vraiment j'ai fait un vrai changement de paradigme. Enfin, j'aurais pu juste sortir de la gauche et aller à droite, plus parce que bon, on voulait bien m'accepter, puis que c'était les seuls qui voulaient bien me parler. D'ailleurs, merci. Hein, merci. Mais non, ça devient une vraie adhésion. Ça devient une vraie adhésion aussi parce qu'en fait, je consulte quelques contenus dont particulièrement, Julien Rojdi, Damien Rieu et Laurent Burton. En fait, j'ai tapé ça sur YouTube, j'ai regardé toutes les vidéos, après j'ai lu un ou deux livres particulièrement Julien Rojdi et Laurent Burton, et j'étais d'accord en fait, parce que les arguments contre l'immigration résonnaient vraiment en moi parce qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre les arguments qu'on peut opposer à l'immigration de masse et au transgenrisme. En fait, je les liste, les arguments, dans mon livre. Et pour moi, il y a beaucoup de parallèles à faire. Et puis aussi, je crois que à ce moment-là, je réalise tout d'un coup que j'habite à Lorient, dans une ville qui est pourrie par l'immigration. Enfin, le centre-ville, c'est Kaboul. Enfin, Lorient, ça va pas du tout, quoi. Et en fait, je prends un bus, j'ai l'impression, enfin je suis la seule blanche, enfin bon, bref. Et du coup, en fait, je réalise après coup le nombre de violences que j'ai subies à cause de l'immigration. C'est comme en fait, Moi, j'ai subi beaucoup de violence dans ma vie et donc j'ai eu l'habitude d'être effractée. Et donc je me dis, mais finalement, la violence migratoire n'était qu'une effraction de plus. Et donc j'ai, sur une structure psychique composée de cette façon-là, en fait, bah, du coup, enfin, voilà, une effraction de plus. Vous considérez juste ça comme normal et donc vous l'acceptez. Et en fait, a posteriori, je me rends compte que ben non, c'est pas normal que j'ai été virée que j'ai perdu un boulot parce que à cause de collègues islamistes, que on a tiré une balle dans ma fenêtre à Marseille parce que c'était des hommes de culture musulmane qui voilà. Et en fait, ouais, je réalise tout ça d'un seul coup et il y a une vraie adhésion à la droite.
Et alors, il y a un truc qui est assez touchant. Presque naïf, c'est que lorsque bah, vous vous dites, vous faites contacter en effet sur les réseaux par quelqu'un de reconté, puis vous rencontrez des gens du camp d'en face qui sont finalement pas si diaboliques que ça, vous dites, vous êtes presque surpris par leur gentillesse, parce qu'en fait ils s'intéressent à vous en tant qu'aussi en tant que personne et pas que en tant que produit ou comme militante ou en tant que prise de guerre. Il y a ces
Non, alors moi déjà, je leur ai toujours dit, vous voulez m'utiliser comme prise de guerre, il n'y a pas de problème, faites-le. Enfin, j'en suis consciente. Non, mais j'ai pas de problème avec ça. Ça va. Mais oui, j'ai noué des amitiés, rares mais profondes, avec des personnes avec qui je ne suis pas forcément toujours d'accord. Et c'est ça qui est génial aussi. Que moi, une de mes amies chères aujourd'hui, c'est Thaïs Descuffon, avec qui je suis vraiment pas d'accord sur tout. Et en fait, c'est ça que je découvre à droite aussi, c'est que du coup, on a le droit de...
Le droit d'être en désaccord.
On a le droit d'être en désaccord, on a le droit de... Et ça, c'est génial.
Alors, l'an dernier, vous assistez au funérailles de Philippines, quand on vous emmène au funérailles de Philippines, et vous racontez qu'il y a cette messe vous a touché. Racontez-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous a touché? Alors évidemment il y a l'émotion d'une jeune innocente sauvagement assassinée, mais là on est sur une dimension avec de la transcendance, on est sur un univers qui est pas le vôtre et qui, la dernière fois que vous étiez entré dans une église, c'était pas forcément pour regarder là-haut quoi, ou lever les yeux en tout cas. Racontez-nous un peu ce moment.
Oui, je voulais pas y aller à la base, et puis c'est Damien Rieu qui m'emmène à la messe pour Philippines en me disant « il faut célébrer ses morts ». Du coup, je ne pouvais rien répondre à ça, donc j'y suis allée avec lui et une autre amie, Marie. Et en effet, j'étais prise d'une émotion à laquelle je ne m'attendais pas parce que j'ai eu l'impression d'avoir de la chance d'appartenir à ça. Je me suis dit « en fait, c'est... » En fait, c'est ça l'Europe, c'est ça la France. Et c'est une... je suis désolée, mais je le dis comme je l'ai ressenti, comme je l'ai pensé, mais c'est une civilisation supérieure. Voilà. J'ai eu l'impression d'appartenir à quelque chose de, quelque chose de supérieur, quelque chose que...
Qui vous dépasse aussi.
Il n'y a pas de dimension de foi. C'est plus, moi, ce qui me touche, c'est la dimension du rituel, plutôt. C'est le rituel. C'est la façon dont on dit au revoir aux morts. Et dans une église, de cette façon-là, c'est pas pareil qu'une cérémonie païenne. Ça ne le sera jamais. Parce que les églises ne sont pas des endroits neutres. Et parce que ce sont peut-être... Enfin, il n'y a pas de peut-être. D'ailleurs, ce sont les plus beaux endroits qu'il nous reste en France. Ce sont peut-être les endroits dans lesquels l'âme de la France est la plus présente. Et donc, à ce moment-là, je me dis, oui, en fait, c'est quelque part prendre soin du royaume des vivants que de prendre soin aussi du royaume des morts de cette façon-là. C'est-à-dire de lui dire au revoir avec tant d'égards, tant de beauté, tant d'émotions, avec ces chants qui m'ont beaucoup touchée, avec les paroles qui ont été tenues, qui m'ont beaucoup touchée. Je me rappelle que l'abbé Grosjean a d'ailleurs dit que, croyant ou non croyant, tout le monde était à sa place ici. Moi, ça m'a beaucoup touchée d'entendre ça. Et puis voilà, j'ai eu l'impression, je trouve que la place du rite a une importance. Il n'y a pas de civilisation sans rite, et les nôtres tiennent principalement sur l'église, et donc... Tout ça m'émeut à ce moment-là.
Alors la médiocrité humaine fait que tout le monde peut se tromper, mais que les gens qui se gourent et qui le reconnaissent sont assez rares. Et vous avez raconté que vous aviez ouvert les yeux sur une falsification du monde auquel vous croyez.
Mais alors, ceux qui se gourrent, qui le reconnaissent et qui demandent pardon, alors là, on est carrément dans l'exception. Et vous, bah, vous avez demandé pardon pour votre action fémène, vous avez demandé pardon aux catholiques. Et j'aimerais qu'on termine dessus, parce que c'est, vous l'avez reçu, vous l'avez écrit, c'est un très beau texte, et donc je voulais vous expliquer à nos auditeurs d'où est venue cette motivation, en tout cas ça, la raison de pourquoi demander pardon.
Justement, de cette messe... c'est la question que vous me posez.
Il y a eu ça, mais ensuite, on n'est pas obligé de demander pardon, et c'est même assez rare. Il y a ce besoin, pourquoi demander pardon ? Quelle était la motivation première, secondaire et...
Il y a d'autres choses que je regrette un peu, voilà, mais bon, je ne vais pas commencer à m'excuser pour tout et à être dans l'auto-flagellation permanente non plus. Mais c'est juste que ça c'était important. Et c'était important... premièrement pour moi, entre moi et moi-même, pour avoir la conscience clean, parce que je me suis dit finalement, ben voilà, c'est, j'appartiens à ça, c'est une partie de moi-même, et quelque part peut-être qu'en entrant dans Notre-Dame en hurlant, j'ai aussi abîmé une partie de moi-même, et moi qui aujourd'hui fustige la pulsion de mort de la gauche et la volonté de tout le temps tout détruire et tout déconstruire, est-ce que j'ai pas été dans cette dynamique-là aussi quand je suis entrée dans Notre-Dame en hurlant? Et donc il faut peut-être un peu regarder les choses en face, se regarder dans un miroir et reconnaître ses torts. Et puis à droite, dans le milieu de droite, en commençant à fréquenter des catholiques, moi le sujet de la foi est un sujet qui me passionne, donc souvent c'est un sujet dont j'aime bien parler, et j'ai eu certaines discussions qui m'ont aidé à comprendre à quel point j'avais blessé les catholiques. Je l'avais vraiment pas réalisé avant, et donc j'ai fait cette vidéo aussi en espérant réparer un peu, faire du bien à des gens, quoi.
Merci beaucoup Marguerite Stern. Je rappelle votre livre Les Rives Contraires aux éditions Magnus. Donc évidemment, nous vous le conseillons, chers auditeurs. C'est un récit passionnant, très émouvant, très bien écrit, qui vous prend aux tripes. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes avec une nouvelle invitée. On va toujours parler de littérature et de livres. Merci encore Marguerite Stern et merci à très bientôt.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours sur Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, tous les jours de 17h30 à 19h30. Et nous avons le plaisir de recevoir, et là je vais essayer de le faire sans me planter, Nanoucha Von... Non, si, Van Von Mourkurkenland.
Oh. Bravo.
Bravo, on va dire Nanoucha. Hein, voilà, merci. Merci Nanoucha d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez pour honorer. Voilà, vous le voyez ici, honoré, publié au Cherche Midi. Est-ce qu'on voit bien là? Oui, c'est ça, comme ça. Donc, votre premier roman, c'était Le Cœur Content, sorti chez Gallimard en 2018. Vous avez reçu d'ailleurs un prix de l'incorrect à ce moment-là. Donc, c'est un roman choral, comme on dit. Donc, c'était l'histoire de cinq personnages qui vivent presque en huis clos dans un hors-monde qui est l'apanage de leur âge. Deux filles, trois garçons liés par une amitié qui leur sert d'honneur autant que de famille, de clan, de protection. Ils ont 20 ans, l'âge des barrières, celles qu'on saute quand on est encore souple, avec frénésie et insouciance. Celles dont on s'entoure aussi pour se garder du monde. Donc une histoire narrée par chacun des personnages tour à tour. Donc cinq narrateurs, cinq styles, cinq manières de s'exprimer. Bref, autant vous dire que c'était audacieux. Quatre ans plus tard, vous revenez avec Un amour mineur chez Metropolis, donc un éditeur de Genève. Et l'histoire sordide, tragique, l'histoire de Léopold, qui à l'instant où il devient père, voit ressurgir ses souvenirs d'enfance. Une enfance saccagée par un adulte, Marcus, un proche de la famille qui lui a fait subir l'innommable, en répugnant de compagnie, qui ferait presque passer Epstein pour un type soft. Et donc aujourd'hui, vous publiez Honoré au Cherche Midi, donc Honoré, éleveur de bovins des Causses, installé sur 1000 hectares de terre, qui se consacre avec passion à ses vaches. Il les connaît par leur prénom, il a noué des liens puissants, des liens quotidiens. Alors sa fille n'a pas souhaité reprendre l'exploitation, comme il arrive de plus en plus aujourd'hui. Et donc Honoré s'interroge sur le devenir de ses terres, sur celui de l'agriculture, dans les Causses particulièrement, où la friche et la forêt ne cessent de s'étendre, mais puis sur la question paysanne, l'avenir de la question de la paysannerie française en général. Mais avant de nous plonger dans votre nouveau roman, nous avons une tradition, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous. Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Alors, Nanoucha, pour sympathie avec la paysannerie française, vous êtes puni par la Cour de justice européenne et vous êtes envoyé en exil sur une île déserte. Grand prince, les juges vous donnent le droit d'emporter deux livres, mais pas la Bible, faut pas déconner. Lesquels?
Les frères Karamazov. Ils sont une Bible aussi, hein. Grande odyssée théologique, histoire de famille, un roman policier et une apologie aussi de l'enfance. Et Crime et châtiment.
Alors, après un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez le droit de revenir. Et sur le chemin du retour, vous croisez votre pire ennemi, qui lui est condamné à l'exil, mais définitif. Et vous avez le droit de lui refiler un seul bouquin.
Un des deux livres précédemment apportés.
Non, celui que vous voulez.
Je lui donnerai Crime et châtiment aussi, pour que son âme soit rachetée par cette pute de Sonia, qui est la fille de Marmeladov.
Alors,
qui était une sainte aussi.
Quel est le livre que vous rêvez de réécrire?
L'Antéchrist, il était trop bien écrit. Ça mériterait d'être remis à la sauce contemporaine.
Vous êtes plus Limousine ou Salers?
Aubrac.
Non mais c'était Limousine ou Salers, c'est pas Aubrac.
Oui mais c'est un roman sur l'Aubrac.
Bon d'accord.
Je triangule.
Quel est le livre que vous n'arrivez jamais à finir?
L'homme sans qualité, de Robert Musil, peut-être parce qu'il est inachevé.
Ce que vous ne referez plus?
Faire confiance, les yeux bandés.
En effet, c'est un bon conseil. Le romancier le plus surcoté de la galaxie?
Je vais peut-être en fâcher certains, Henry Miller?
Je suis pas fâché. Et le plus sous-coté?
Ferdowsi, qui a écrit le Charamshaneh, le livre des rois, qui est une épopée zoroastrienne dans la Perse pré-islamique.
Flaubert ou Balzac?
Flaubert. Délicieusement campé par Jacques Weber au Théâtre de l'Atelier il y a quelques années, pour son ironie.
À la recherche du temps perdu, c'est...
Le temps n'existe pas.
Un drone Amazon vous livre un cadeau surprise. Vous l'ouvrez, c'est la lampe d'Alanan. Vous avez le droit à trois vœux, dont l'un est obligatoire, c'est celui de voyager dans le temps. Donc première question, à quelle époque souhaiteriez-vous aller? Et deuxième question, quels sont les deux autres vœux?
Je me baladerai du côté de l'Antiquité, chez les Scythes quelque part en Asie centrale. Et les deux autres vœux, vivre à cheval. Et enfin, et ça c'est un petit peu plus général, je trouve que chacun devrait guérir son prochain, guérir ses proches Et au-delà de ça, amuser son lointain, faire des sourires aux inconnus, toutes ces petites marques de courtoisie qui font que la journée est plus légère et plus camarade et plus cordiale.
Merci beaucoup, Nanoucha. Moi, j'aurais dit une PlayStation, l'immortalité. Bon, bref.
L'immortalité. Voilà.
Avec des trucs simples, quoi.
Ça va être chiant.
Ah, non, c'est pour ça, quand tu es immortel,
c'est un coup
à être
déçu, l'immortalité. Hein. C'est un coup à regretter.
Ouais, c'est pas faux, mais après, si on peut être le chef tout le temps, c'est bien. Alors, parlons un peu de vous. D'où vient votre goût pour la littérature ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est l'école ?
Pas du tout. Mes parents étaient dans l'industrie. Pour moi, c'était un métier qu'on ne pouvait pas envisager de prendre à bras le corps. J'ai commencé à lire Baudelaire quand j'étais en terminale. J'avais très peu lu avant ça. J'ai fait un mémoire de Sciences Po sur la figure du diable dans la littérature romantique. Donc, j'ai lu Le diable amoureux de Gazote. J'ai lu La peau de chagrin. J'ai lu en partant du principe que le diable était une même personnalité et que chaque écrivain nous le décrivait sous un angle particulier. Et mon mémoire consistait à décrire un brave type qui finalement souffrait du mal que ses mains font et qui avait envie de rentrer à la maison et qui était à la limite encombré par sa propre lumière. Alors ça a fait grincer quelques dents. C'est devenu une pièce de théâtre qui a été mise en scène au Théâtre du Nord-Ouest avec Jean-Luc Génère. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire pour moi. C'est un petit peu comme les peintres qui avaient des travaux de commande et des travaux artistiques. Donc j'écris maintenant des livres pour avec des personnalités, industrie, cinéma, politique, grand banditisme parfois. Je peux travailler dans un grand hôtel ou dans une roulotte ou dans une prison, enfin partout. Et à côté de ça, de la littérature, mais en essayant de peindre le social, quoi. En essayant que le travail de l'écrivain commence, prolonge en tout cas celui du journaliste, et à chaque fois des sujets de société, pour essayer de faire entendre des gens qui n'ont pas forcément... l'opportunité, d'où les thèmes que vous évoquiez tout à l'heure, les suicides des jeunes, parce qu'en réalité c'était ça hein, le thème du cœur content.
C'est le
suicide des jeunes de 25 ans qui étaient bien nés, bien nourris, bonnes études, bonne famille, et qui se foutent sous un train à 25 ans parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans le monde. Ils sont légion, on n'en parle pas beaucoup.
Il y en a de plus en plus aujourd'hui.
Ouais. Amour mineur, c'était les pulsions effectivement des types d'âge mûr. Et là, tout à coup, c'est le dernier jour d'un homme qui a 1000 hectares sans héritier.
Alors, donc, la littérature est venue tardivement, parce que terminale, bon, ça arrive un peu pas très tôt, et la vocation d'écrire, alors parce qu'on se met à écrire comme ça, vous écrivez pour d'autres, mais la vocation d'écrivain, c'est-à-dire d'écrire, pas pour d'autres, mais écrire en votre nom, même si c'est un prénom un peu compliqué à dire. Bah non, mais je vais vous en trouver des prénoms, vous allez voir.
Mais
ces textes sont plus faciles à lire que les
c'est vrai. Écrivain, c'est une vocation. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une vocation ?
Peut-être un peu quand même. C'est-à-dire que dans les premiers moments, quand on commence à écrire, on a chaud, on a froid, on allume une bougie, on débouche une bouteille de rouge et il se passe quelque chose d'un peu démiurgique où on crée. Ce serait comme un sculpteur qui. Très capable de créer la matière à laquelle il donnera forme par la suite. Et c'est tellement amusant, c'est tellement difficile, c'est tellement audacieux. C'est impensable comme métier. Et puis surtout quand on commence à vouloir essayer de mettre dans la bouche des personnages des choses qu'on ne pense pas forcément. Oui, après il faut s'accrocher.
Romaric.
Oui, alors vous avez, Nanoucha, une littérature du personnage. Alors, le roman, évidemment, est le genre du personnage par excellence, mais ça fait quand même quelques années qu'on est de plus en plus soit dans l'autofiction, soit il y a des nouveaux genres qui sont à la mode, comme l'exofiction, par exemple, qui est en fait un peu du roman historique où on improvise à partir d'un substrat existant. Donc, on perd un peu le rapport à la fiction et voire aussi à l'altérité, dans le sens où la plupart du temps, les gens se mettent en scène eux-mêmes, hein, enfin aujourd'hui essentiellement, parfois leur grand-père, mais enfin eux-mêmes. On sent que l'époque n'est pas dans la sortie de soi. Et vous, au contraire, bah, dans tous vos livres, les personnages, c'est la voix du personnage, dans le sens où c'est vraiment, les livres sont portés par les personnages, par leur voix, par leur sensibilité, et ils sont très différents de vous, soit par leur âge, par leur sexe, par leurs conditions. Et donc, on a envie de vous demander comment, d'abord, Comment vous appréhendez ce travail? Qu'est-ce qui vous inspire? Quel est le détail l'élément qui déclenche? Comment vous trouvez ces personnages? Comment vous les habitez? Comment vous vivez avec eux quand vous écrivez?
C'est une bonne façon de se cacher aussi. Effectivement, pour l'instant, les héros sont toujours des hommes. Il y a quelques femmes qui gravitent comme ça. Il y a toujours une rencontre, il y a toujours, pour tenir la durée, un livre de collaboration, c'est 6 mois, un roman, c'est 4 ou 5 ans. Entre le choix du sujet, alors où il faut être révolté ou peiné par quelque chose, ou rencontrer comme cet Honoré, qui est un homme que j'ai rencontré, j'ai trouvé que ça faisait un personnage magnifique. Donc il faut tenir la distance, il faut que le roman à écrire, en tout cas le texte en cours, nous réveille au milieu de la nuit, et puis bâtir, préméditer le crime et tout. Peut-être effectivement qu'on n'est pas les mieux placés pour parler de soi-même. Moi, je suis très touchée quand... Là, à chaque fois, j'ai travaillé par des gens qui étaient concernés par leur sujet et je trouve merveilleux de leur offrir le livre et que des pédopsychiatres, des magistrats pour amour mineur ou des familles qui ont perdu des enfants pour le cœur comptant. Et là, des gens du cru qui me disent « Ah, mais c'est fantastique !» On n'aurait peut-être pas réussi à le dire, mais cette distance finalement fait qu'on envisage mieux le sujet dans son ensemble. On voit son ossature, on voit les points de force, et puis après, il n'y a plus qu'à remplir.
Alors, ce sont des sujets de société, vous l'avez dit, aux 3 romans. Alors, est-ce que vous avez une approche au départ qui est journalistique, et une approche anthropologique, une approche de chercheuse, universitaire? Comment, parce qu'il y a beaucoup de... Pour arriver à ça, il y a énormément, énormément de boulot. Alors sinon, si on ne travaille pas en amont et si on ne connaît pas le sujet, ben... Vous n'aurez pas les commentaires, en effet, des gens qui vous disent comment vous avez pu mettre des mots aussi justes sur ce que je vis. Donc, comment vous travaillez en amont tous ces sujets-là?
C'est un peu foutraque, il y a beaucoup d'intuition. Il faut rencontrer les gens. Il y a quand même un travail d'anthropologie un peu sauvage. Hein. Je ne peux pas prétendre à un travail de chercheur. Je n'ai pas fait l'ENS, je n'ai pas fait tout ça. Mais il y a des rencontres. Il faut avoir l'oreille musicale. C'est merveilleux de restituer aussi le timbre d'un personnage, que ce soit une discussion de bistrot... ou quelqu'un qui va parler de manière un petit peu plus intellectuelle. Et puis, c'est très distrayant pour le lecteur. Ça donne vie, vraiment. Pour autant, il faut lire aussi. Je lis souvent tout ce qui a été écrit sur le sujet pour qu'il y ait une forme de continuité. Là, pour Honoré, j'ai lu L'épervier de Maheu, j'ai lu Les Paysans, j'ai lu La Terre, la fin des paysans, pardon. J'ai lu La Table au crevé, j'ai lu Gustave Alain, j'ai lu Georges Dumézil aussi. Pour être capable de faire entendre aussi tout ce qui a été écrit précédemment, même de manière un peu inconsciente, hein, qui se balade comme ça dans nos représentations, mais pas écrire à partir de rien.
Et donc vous avez rencontré des éleveurs, alors vous... Donc l'Aubrac, pourquoi l'Aubrac? Facilité, c'est chez vous
Par hasard, parce que c'est pas des agriculteurs tels qu'on en voit sur le Causse avec des bleus à glissière et de la boue partout. Honoré, il faut imaginer un espèce de Jean Rochefort sur son plateau à 1000 mètres d'altitude avec des petits yeux bleus et la moustache drue. C'est un pays qui est en apparence assez austère, assez revêche, un peu gris, long à conquérir, avec ses pins sylvestres comme ça, la rumeur de la bête du Gévaudan. C'est assez impressionnant comme endroit. Pour autant, les gens sont très doux, comme tous les montagnards, un peu farouches. Mais dès lors qu'on rentre en intimité avec eux, ils sont d'une délicatesse, d'une subtilité inouïe. Donc ça faisait un paysage, un panorama qui était intéressant par les gens qui le peuplaient. Et oui, j'ai mis des génisses dans la bétaillère pour les emmener. On a fait les... Oui, c'était chouette, ça.
Vous avez fait du terrain, quoi.
Il faut le faire.
Ouais, vous n'avez pas fait
parce que ça s'invente pas.
Que la recherche dans les livres.
Non.
Mais vous êtes allé sur place. Et donc, Honoré, c'est un vrai personnage. Ce n'est pas un mélange de différentes personnes que vous avez rencontrées.
Si, évidemment. Mais l'homme qui a inspiré Honoré, au départ, avait effectivement des tombes dans son jardin, au milieu de nulle part. Et le vent sifflant dans les aiguilles des pins, on entendait le silence mieux que nulle part ailleurs. Et il lui manquait à peu près toutes ses dents. Il avait perdu sa femme, son fils avait été écrasé par une meule de foin, ces grosses balles rondes là qui font 200 kilos. Et il paraissait assez misérable, mais malgré tout, quand je lui ai dit « Mais c'est grand comment chez vous ?» Il a levé ses petits yeux et il m'a dit « Où que tu regardes ?» Et on voyait loin, le regard portait très loin. Où que tu regardes, c'est chez moi. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Il n'y avait pas de repreneur. Il oui. y avait l'horizon sans repreneur. C'est le drame, hein, quand le fil de la succession se casse, les enfants partent à la ville, ne reviennent pas, pire que la guerre.
Ah oui, c'est ça.
Et je suis partie de là. Alors après, j'ai greffé, évidemment, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai senti.
Vous avez senti quand même des choses vachement bien, parce que c'est un roman quand même prémonitoire avec la crise qu'on a eue sur la...
Oui.
La, comment on appelle ça déjà, la dermatose nodulaire. Voilà, où on sacrifie... parce que c'est un éleveur particulier qui travaille sur la race, sur la reproduction. C'est exactement les sujets qu'il y a eu, qui ont débarqué comme ça d'un coup en fin d'année, puis début d'année. Et donc ça, vous l'aviez senti, quoi. Vous l'avez vu que c'était un sujet, que c'était un... Dans la paysannerie française, en tout cas chez des éleveurs, c'est la perte passée par là aussi. Ce n'est pas que quelqu'un qui va... les enfants qui ne nous succèdent pas, c'est aussi le bétail qui peut disparaître.
Je ne peux pas prétendre l'avoir senti.
En tout cas, vous le racontez. Donc.
Ces bêtes, elles portaient souvent des prénoms dans des exploitations familiales. Attention, il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, hein, parce qu'Honoré respecte aussi ceux qui mécanisent, respecte les reconvertis en bio. Il n'y a pas du tout de passéisme dans le livre. Néanmoins, il revendique la possibilité d'exercer son métier selon ses propres règles et éventuellement de désobéir. Donc, dans des exploitations de petite taille, surtout en paysage tourmenté, où c'est difficile d'avoir trop de têtes, les vaches avaient des noms et les paysans connaissaient l'hérédité de chacune d'entre elles. Donc, les familles, bétail et familles humaines, évoluent en parallèle sur des générations. Ce qui était déjà vrai quand j'ai choisi le thème, c'est que une autorité étrangère s'immisce un peu dans les travaux et les jours et qu'à coup de normes, de taxes, de règles, les paysans perdent leur liberté, petit à petit. Et inévitablement, ça débouche sur des crises comme la dermatose nodulaire, mais ça aurait pu être tout autre chose.
Romaric.
Oui, il y a aussi il y a cet aspect, on reviendra d'ailleurs sur cet aspect un peu d'apocalypse, en tout cas de condamnation, presque. On a l'impression de la paysannerie par les normes européennes et par tout un ensemble de choses, enfin aujourd'hui, que vous décrivez, en tout cas, tout l'aspect, on va dire, le plus tragique et le plus dur du livre. Mais il y a aussi, moi, ce que j'ai trouvé très très beau dans la manière que vous aviez de raconter ça, c'est d'abord, il n'y a pas d'image d'Épinal, mais en revanche, vous rechargez de toute sa puissance mythologique presque et poétique, la paysannerie, sans qu'il y ait quelque chose d'idyllique, mais simplement, il y a toute cette charge, toute cette force, ce que vous exprimiez là à l'instant, ce que ça a d'extrêmement poétique de dire « l'horizon est à moi ». Et puis aussi un rapport, vous montrez bien un rapport des paysans, mais ça c'est fatal, un rapport à la terre qui est immémorial en fait, et qui est depuis la plus haute antiquité, qui s'est transmis jusqu'aux paysans il y a deux ou trois générations, et sans doute encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient du fond des temps, d'un rapport aussi à la terre qui a quelque chose de mythologique, ça on le sent aussi très bien dans la manière dont vous le montrez, cette espèce de paganisme au sens noble du terme qui survit en fait dans le rapport au monde du paysan. Et puis il y a aussi un autre épisode qui est celui de la bête du Gévaudan. Vous revenez sur la bête du Gévaudan, il y a une recherche un peu là-dessus, donc qui fait partie quelque part de cette dimension légendaire que vous rapatriez dans votre sujet. Donc voilà, j'ai envie de savoir comment vous-même, comment ça vous parle, d'où ça vous vient, est-ce que c'est des liens aussi familiaux, est-ce que c'est des recherches, des lectures, et comment vous avez travaillé sur cette bête du Gévaudan qui reste quand même très mystérieuse, même si vous établissez les différentes péripéties, notamment la fausse bête du Gévaudan qui avait été tuée, etc. Comment vous avez été amené à rentrer là-dedans dans ce grand mystère paysan.
D'accord, alors Grantin la terre, Grandeau la bête du Gévaudan.
Oui,
on va commencer par le Grantin.
Le vieux cavalier que je suis, je dis ça modestement, mais c'est vrai que je travaillais pas mal de jeunes chevaux, on sait que l'humain n'est qu'accessoire et qu'on va danser à quelque chose de plus grand que nous, de silencieux, alors de bavard, mais en tout cas un langage, une communication non verbale, un langage corporel. Rentrer dans la nature, c'est un peu la même chose. Les lois humaines ne sont que très dérisoires par rapport à tout ça. Et la communication est autre. Donc, la beauté intérieure d'Honoré, évidemment, il la projette de manière poétique presque un peu érudite sur le paysage qui l'entoure et qui devient un personnage à part entière. C'est la prairie qui ondule, c'est le vent mystérieux, c'est la neige éblouissante. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette terre qui possède finalement son paysan, paysan qui a honoré sa terre comme on honore une femme pendant des décennies, après l'avoir défrichée, désempierrée, semée, cultivée, fauchée, etc., quand il l'abandonne, elle retourne à sa luxuriance d'antan. Et nos paysages qui sont façonnés gardent quand même quelque chose de très insoumis et se libèrent sitôt qu'on se détourne heureux et retrouvent leur espèce de friche joyeuse. Des plantes curieuses montent à l'assaut de la ferme, c'est le règne du chardon, des ronces et des orties, et c'est la métaphore de l'arbre qui pousse dans la cuisine, évidemment. Mmh. Et quand le jour se lève, Honoré ne sait pas s'il doit se laisser aller à sa fin, joyeuse, hein, c'est pas une fin tragique, ou s'il doit se retrousser les manches et rabattre son érable. Voilà pour la terre. La bête du Gévaudan participe exactement de la même dynamique, c'est un de nos derniers prédateurs en France. Et c'est pas si vieux. Alors il y a effectivement tout un tas de mythes qui courent, on n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Est-ce un loup, est-ce un chien, est-ce le croisement des deux un peu apprivoisé? Son comportement le laisserait penser. Mais la peur, en tout cas, ne disparaît pas d'un coup de fusil.
Alors vous l'avez dit, c'est pas malheureux. C'est heureux plutôt. En effet, tout le roman explore cette relation profonde que vous décrivez si bien à ce micro entre la nature et l'homme, mais aussi la perte de cette relation. Et malgré tout, Honoré, en effet, est heureux. Alors, c'est quand même, il y a quelque chose de paradoxal, quoi. C'est, oui, la nature va survivre, mais de dire que l'homme perd cette relation particulière parce qu'il est paysan, parce qu'il est né là, parce qu'il l'entretient, via un type qui débarque en vacances, n'aura jamais cette relation. Si on ne naît pas les pieds dedans, si on ne vit pas avec, on n'a pas cette relation, sauf qu'il est conscient qu'il va perdre cette relation.
Alors, oui,
et il y a une impuissance.
Les Yakoutes qui vivent parfois par moins 40 dans les steppes disent « c'est tellement beau qu'on n'a pas froid ». Il y a un peu de ça chez Honoré. Et c'est le vrai fond du livre, c'est ça. Plus que la paysannerie, la terre, enfin, c'était très intéressant d'aborder ça, mais le vrai cœur du livre, c'est l'indulgence. On cède facilement, par les temps qui courent, dans nos journaux, nos médias, dans la rue, dans les discussions qu'on a les uns avec les autres, à la révolte, à la haine, à l'instinct de vengeance. Mais finalement, bénis ceux qui te persécutent et chéris ceux qui ne sont pas pareils que toi. Et l'indulgence gagnée de haute lutte d'Honoré. Et le sentiment le plus difficile auquel on peut arriver, il a de l'indulgence pour ceux qui lui ont tout pris, puisqu'on lui a tout pris, mais il n'a rien perdu, puisque la terre est là. Mais il a de l'indulgence pour le joug des bourreaux, il a de l'indulgence pour ceux qui ont fait d'autres choix que les siens en termes de logistique agricole, je dirais. Il a de l'indulgence pour la douleur, pour les siens qui sont partis. Il a de l'indulgence pour la mort même. Et par contraste avec les deux romans précédents, qui étaient des textes un peu indociles, j'ai trouvé que le bien était beaucoup plus difficile à faire, beaucoup plus difficile à traiter, et il est même plus difficile à en parler que le mal.
Alors vous en parlez très bien, mais il est 18h57, et si vous voulez que des personnes aussi sympathiques, érudites et passionnantes que, je vais recommencer, Nanoucha Moore Kirkenland, j'ai dit d'une traite,
oubliez Van,
reviennent sur Radio Courtoisie. Van, ah j'ai oublié, ça sera la prochaine
fois.
Non, on recommence pas, parce qu'il y a un message important, chers auditeurs, c'est que cette radio ne vit ni des subventions, ne pas possédée par un groupe industriel, ni un riche milliardaire, mais dépend uniquement de vous, et donc de vos dons. Et ben, écoutez ce petit message, et on se retrouve tout de suite.